Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Politiquement Vôtre, la grande émission politique de Mon Paris FM, imaginée par les acteurs sociaux des centres Goscinny et Oudinet. Dans ce programme, des jeunes, politisés ou non, échangent avec des personnalités politiques sur des sujets qui les concernent directement, afin de mieux appréhender l'impact concret de la politique sur leur vie quotidienne. Aujourd'hui, avec moi, j'ai plein de retours, notamment les jeunes Djelloul et Timéo. Comment ça va les garçons?
Ça va très bien et vous?
Super, heureux d'être de retour dans Politiquement Vôtre?
Oui, hein.
Oui, heureux.
Super. Djelloul, comment ça va? Le brevet, ça avance? Tu le sens comment?
Ça avance. Un peu de stress, mais ça va.
C'est bientôt, les examens?
Bah, je pense que c'est dans 3 mois.
Ouais, il y a le temps encore. Ouais. Timéo, toi, c'est le bac de français cette année, c'est ça,
c'est
en première?
Ça.
Tu le sens comment?
Il y a le temps encore.
Ouais. Tout va bien se passer. Super, les garçons. Aujourd'hui, un autre retour dans Politiquement Vôtre, c'est Thibaut, notre super chroniqueur qui fait sa première de l'année. Comment ça va, Thibaut?
Eh ben, ça va, Lucas. Super content d'être ici. J'avais hâte de pouvoir me libérer pour Politiquement Vôtre. C'est chose faite.
Bah ouais, enfin.
Voilà.
Enfin, on est très content d'accueillir à nouveau parmi nous. Et notre invité du jour qui est Anaïta David. Bonjour, Anaïta. Comment ça va?
Bonjour. Bah, ça va très bien. Merci pour l'invitation.
Avec plaisir. C'est la première fois que tu fais de la radio?
Ouais. Première.
Donc, grande première pour toi. Bah, tout le monde est expérimenté. Tu es la seule à découvrir l'outil radio aujourd'hui. Bon, mais ça va aller.
Ça va aller.
Non, ça va être super, j'en suis sûr. Donc, alors aujourd'hui, je vais te présenter. Ensuite, on va revenir sur ton parcours, sur un petit peu les enjeux qui existent à gauche en ce moment. Et on va enfin réagir tous ensemble à l'actualité politique du pays. Donc, c'est parti. Anaïta, donc tu as 21 ans. Et tu es né et tu as grandi à Nouméa, en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. C'est bien ça.
C'est ça.
Tu déménages ensuite en Martinique, où tu crées à l'âge de 15 ans, avec plusieurs amis, une association de jeunes engagés pour la protection de l'environnement. Tu milites aussi pour sensibiliser les Martiniquais et Martiniquaises à l'impact des politiques de l'Union européenne sur leurs conditions de vie. C'est pour tes études de droit et de sciences politiques que tu débarques en métropole une fois ton bac en poche en 2021. En parallèle, tu fondes et co-présides l'association des ultramarins d'Assas et rejoins Place Publique, le mouvement créé par Raphaël Glucksmann. En 3 ans chez Place Publique Jeune, tu t'occupes successivement de l'accueil des nouveaux adhérents, puis de la structuration et de la cohésion du mouvement avant d'en devenir la co-référente nationale. L'amour ne durant que 3 ans, tu claques la porte le 16 décembre 2024, fustigeant le peu d'investissement de Place Publique pour unir la gauche et la mainmise totale de Raphaël Glucksmann sur le mouvement. En parallèle de ton master en sciences politiques et politique de l'environnement et de ton travail de collaboratrice parlementaire stagiaire au sein du cabinet du président de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale, tu adhères à Génération, le parti fondé par Benoît Hamon. Anaïta, j'aimerais du coup, première question, que tu m'expliques d'où vient cette passion pour les micro-partis de gauche dont la ligne politique est personnifiée par un seul homme, et plus largement, j'aimerais savoir pourquoi tu préfères adhérer à ce type de petits partis plutôt qu'à des partis plus établis comme le PS ou Europe Écologie Les Verts.
L'engagement, je dirais pas que c'est une passion pour les petits partis personnifiés par une seule personne, d'autant plus que je pense qu'aujourd'hui, Génération, Benoît Hamon n'est plus directement à Génération, donc... Donc voilà, moi à la base, si j'avais choisi un petit parti qui était Place Publique au moment où je l'ai rejoint, c'était parce que j'y voyais la possibilité de porter une ligne politique, de porter des sujets peut-être un peu plus niches dont on parle moins, à savoir les Outre-mer, beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi au début un petit parti et après le fait de rejoindre un autre parti qui n'est pas un grand parti de masse, qui n'est pas forcément parmi les partis les plus mainstream, c'est parce qu'en fait j'estime que j'avais vraiment envie de rejoindre un parti avec lequel j'étais quasiment, voire à 100% en accord avec l'ensemble des sujets portés, et c'était le cas de Génération.
D'accord, t'estimes que c'est plus compliqué d'être totalement en accord avec un parti quand c'est un parti de masse, entre guillemets, et qu'il y a plusieurs courants qui existent, c'est ça?
Oui, je pense, parce que de toute façon, dès lors qu'il y a des congrès, etc., qui définissent la ligne d'un parti, comme c'est le cas chez les écologistes, chez le Parti Socialiste, forcément, il y a plus de monde, plus de lignes, et donc c'est peut-être moins facile de, un, faire émerger des idées dont on n'entend pas forcément parler tout le temps, et deux, effectivement, d'être en accord avec tout.
Très bien. Merci, c'est très clair. Bon, on va commencer du coup à revenir sur ton parcours et je vais laisser Djelloul te poser la première question.
Donc, Anata David, où avez-vous grandi ?
J'ai grandi du coup à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie Kanaky, et j'ai fait juste mes années lycée du coup en Martinique. Ouais.
Timéo, je crois que tu avais une question par rapport à ça aussi.
Quel a été votre parcours scolaire et votre relation vis-à-vis de l'école ?
Moi, j'avais la chance de bien aimer l'école. Donc, en fait, ça s'est bien passé, je dirais, plus ou moins sur l'ensemble de ma scolarité, avec une petite exception au collège, puisque j'ai subi du harcèlement scolaire, comme beaucoup d'enfants, malheureusement, au cours de leur scolarité. Mais j'aimais beaucoup apprendre. Donc, jusque-là, je me suis un peu réfugiée dans ça aussi. Et en fait, du coup, j'ai eu un parcours plutôt classique, si ce n'est que j'ai beaucoup changé d'établissement, du coup, puisque j'ai changé de collège pour fuir mon harcèlement. J'ai changé de lycée pour des questions de spécialité, puisque j'ai passé le nouveau bac en 2021. Et après, je suis arrivée du coup en Hexagone, plus précisément en région parisienne, pour continuer mes études. Tout le long en sciences politiques, d'abord à Nanterre, puis à Paris 2, Panthéon Assas, et enfin maintenant à Sciences Po en master. Et globalement, parcours plutôt première de classe, plutôt délégué pour le coup, c'est plutôt ce type de profil-là.
Avec le bac avec mention très bien, c'est ça.
C'est ça.
C'est l'exemple à suivre, la très bonne élève. Et Anaïta, est-ce que le fait de grandir en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, donc un territoire qui est classé comme à décoloniser par l'ONU, qui est même dans un long processus de décolonisation qui patine un petit peu en ce moment, est-ce que ça a participé à forger tes opinions politiques et ton envie de t'engager, par exemple ?
Je sais pas si ça a forgé mon envie de m'engager, parce que je saurais pas dire d'où elle vient, mais elle a toujours été là. J'avais fait conseil municipal junior en primaire, j'ai été déléguée quasiment toute ma scolarité. Enfin, j'ai toujours eu un peu l'envie d'aider les autres. Est-ce que c'est dû au fait d'avoir grandi là-bas ? Je ne sais pas. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça définit beaucoup de mon engagement, puisque je parle beaucoup des Outre-mer tous les jours, dans mon engagement, dans ma vie de tous les jours. Enfin, c'est un peu un trait de ma personnalité que j'accentue beaucoup. Mais ce qui est clair, c'est que ça a aussi influencé ma façon de voir la société, puisque c'est une société qui est finalement ultra pluriculturelle, où on avait appris à vivre ensemble, ce qui a été largement mis en péril par ce qui s'est passé, ce que le gouvernement a fait et ce qui s'est passé en mai 2024. Ça a vraiment influencé ma manière de voir la société et le vivre ensemble.
Très bien. Djelloul, tu avais une autre question ?
Ouais. Vous avez créé des associations très jeunes, vous avez été bénévole, éco-délégué et délégué de classe au lycée. Vous avez adhéré à un jeune parti politique. Vous avez adhéré jeune à un parti politique. D'où vient ce très fort désir d'engagement ?
Comme je le disais là, en fait, je sais pas. Ça a toujours été là. C'est vraiment une envie de d'aider les autres. Enfin, c'est vraiment ça qui a toujours structuré, d'aider les autres, de permettre aux gens de comprendre comment la politique intervient dans leur vie. Pour un peu le mantra très classique, si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique s'occupera de toi. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est ultra important à faire comprendre aux gens, pour qu'ils s'emparent eux-mêmes de la politique, du destin de la société, finalement. Et je pense que c'est ça qui a orienté, en tout cas, mon engagement après, parce que c'est vrai qu'au collège, c'était pas non plus comme ça que je le réfléchissais, mais ouais, vraiment l'envie d'aider les autres. Et maintenant, d'aider les gens à juste prendre en main, la politique en main et en faire... un truc à eux aussi.
D'accord. Merci.
Que diriez-vous aux jeunes pour les convaincre ou les influencer de suivre votre exemple ?
Je ne sais pas s'il faut suivre mon exemple totalement, parce que moi, pour le coup, je me suis engagée très fort. Je comprends que ce soit quelque chose que tout le monde n'ait pas totalement envie de faire, que tout le monde n'a pas le loisir de faire aussi. J'ai de la chance d'avoir des parents qui ont pu me financer pendant toutes mes études. Donc j'avais un job étudiant à côté, mais qui n'était pas non plus un job qui prenait beaucoup de temps et beaucoup de place. Donc j'ai eu le loisir de m'engager. Ça, c'est aussi quelque chose que je pense qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Ce serait bien que ça le soit. C'est pour ça qu'après, on va militer pour des revenus pour les jeunes, le RSA moins de 25 ans, pour qu'il y ait un revenu de subsistance pour tous et toutes. Mais pour ce qui est de donner envie aux gens de s'engager, quoi faire ? Juste parler d'engagement et dire aux gens qu'en fait, ils peuvent porter les causes, les choses qui vous animent au quotidien, les trucs pour lesquels vous avez envie de vous battre, les posts Instagram qui vous intéressent. Des fois, des trucs du quotidien. Dès lors que ça vous touche, vous pouvez en faire quelque chose au niveau associatif, politique, syndical.
C'est un peu ce que tu as fait, puisque très jeune, tu t'es engagé pour sensibiliser les Martiniquais et les Martiniquaises sur les conséquences de la politique de l'Union européenne sur leur vie concrètement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce combat, s'il te plaît ?
Alors en fait, moi j'ai découvert l'Union européenne en arrivant en Martinique, puisque c'est une question de statut des différents outre-mer. Il y en a qui sont plus ou moins inclus dans l'Union européenne. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, n'est pas inclus. C'est un territoire associé à l'Union européenne, mais qui n'en fait pas partie. La Martinique fait partie de l'Union européenne. Et en fait, du coup, là-bas, j'ai découvert, enfin, par exemple, mon lycée, le lycée dans lequel j'étais, enfin, dans lequel j'ai étudié en partie, le toit s'effondrait sur la tête des élèves. Il a été reconstruit en grande partie grâce à des fonds européens. Et en fait, c'est juste par une sorte de hasard. C'est un pote qui était dans une asso qui s'appelle les Jeunes Européens, qui existe encore aujourd'hui, dont je ne fais plus partie, mais qui existe encore. Et qui a une action en fait de sensibilisation à qu'est-ce que l'Union européenne, quelle place elle a dans nos vies, qui est une place hyper importante. Et je pense que ça a aussi, le hasard de la chose de rejoindre cet asso-là a aussi beaucoup structuré mon engagement, notamment l'année dernière avec les élections européennes sur lesquelles j'étais candidate. Mais voilà, globalement, c'était l'envie de dire, et en fait, c'est pas parce qu'on est loin de l'hexagone, du continent européen, que ça n'a pas d'impact sur nous. Il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe là-bas, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir déjà financer des projets qui vont bénéficier au territoire d'une part, et de l'autre côté, pouvoir se soulever s'il y a des politiques qui ne nous sont pas bénéfiques et au contraire qui vont appauvrir les gens.
Très bien. On reste sur votre engagement. Tu avais une question encore, Djiloul.
Vous vous présentez comme engagé pour une justice sociale et climatique. Est-ce que c'est le moteur de votre engagement ?
Ouais, aujourd'hui, carrément, c'est... Enfin, je pense que ça doit être au cœur de tout. Déjà parce que, enfin, il y a une grande partie de mon engagement qui vient aussi de la cause climatique. J'ai fait comme beaucoup de jeunes lycéens... Enfin, juste avant le Covid, les grèves pour le climat. Alors moi, j'étais toute seule avec ma pancarte dans le centre-ville de Fort-de-France. Mais ça a fait aussi partie des choses qui m'ont montré aussi qu'en fait, c'était pas si acquis que ça. Enfin, moi, j'ai grandi. Mes parents travaillent aussi sur tout ce qui est droit de l'environnement, etc. Donc, j'y étais hyper sensibilisée. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré le fait qu'on soit sur une île, que les plages, elles rétrécissent, mais de manière très visible d'année en année... Ben en fait, c'était pas le réflexe de la lutte écologique était pas tout à fait dans la tête des gens. Et en plus, un truc très important, c'est que on peut pas faire du militantisme écologique, parler d'écologie sans parler aussi du social, parce qu'aujourd'hui les personnes qui sont le plus atteintes par les problématiques écologiques, la pollution, etc., ça va toujours être les plus précaires, toujours les plus pauvres, ceux qui habitent, quand il y a des logements près des autoroutes, en général c'est des logements sociaux, donc ça va être les plus pauvres. Et d'un autre côté, les politiques écologiques, elles coûtent. Elles nous coûteront plus cher si on attend, mais elles coûtent déjà aujourd'hui. Il faut penser aussi à ne pas, par exemple, faire reculer toujours plus les plus précaires, plus loin de leur lieu de travail, parce qu'on va construire des nouveaux bâtiments, mais du coup, le loyer va coûter plus cher. Enfin voilà, il faut vraiment savoir articuler les deux. Sinon, on est voué à l'échec et à vraiment un avenir que je ne recommande pas du tout.
Au vu de ton engagement et de ton parcours, on a l'impression que tout se fait assez naturellement pour toi, ton entrée en politique et même dans toutes les associations sur lesquelles tu as travaillé. Est-ce que quand tu es arrivé dans l'Hexagone, il n'y a pas eu un petit vertige, comme un petit sentiment, un peu d'illégitimité d'appartenir à tout ce monde-là qui est, tu sais, très parisien, très un petit peu techno, etc. et de voir que toi, tu n'es pas de ce sérail. Est-ce que tu n'as pas eu un peu d'appréhension au début ?
Si, carrément. Après, j'avais eu la chance de pouvoir mettre un petit peu un pied dedans, du coup, avec les jeunes européens, puisque j'avais eu la chance de représenter au sein de l'association, qui est quand même une grosse asso, j'avais représenté, du coup, les jeunes qui n'avaient pas de comité local, donc c'était ceux qui habitaient en général en ruralité. On était, je crois, 3 ou 4 en Outre-mer à ce moment-là, dont 2 en Martinique, 2 à La Réunion. Et en fait, j'avais quand même, du coup, eu un pied dans un bureau d'une grande asso, enfin, c'était pas un bureau, mais voilà, dans les instances d'une grande association. Et en même temps, c'est vrai que quand on arrive en Hexagone, il y a ce truc-là d'illégitimité, mais c'est surtout parce qu'en fait, on nous laisse, en tant qu'ultramarin, on nous laisse pas la place, on parle pas de nous. Et du coup, on cherche un peu où est-ce qu'on doit s'insérer. Et je pense que c'est le cas aussi pour plein d'autres catégories de la société, pour tout ce qui est de l'engagement. Quand on vient de la ruralité, ça commence un petit peu. Hein. Pareil, quand on vient des banlieues, etc., on commence tout juste à parler de nous. Et du coup, on commence à se dire « Ah, peut-être que j'ai ma place », mais c'est vraiment, on est aux prémices du truc. Et il faudrait que ce soit naturel pour tout le monde. Moi, c'est vrai que je me suis je me suis posé beaucoup de questions, mais que en fait, j'avais tellement cette envie-là de porter des choses et d'aller à la bagarre un petit peu, que ça s'est fait plutôt naturellement. Mais je comprends totalement que pour d'autres, ce soit plus difficile. Enfin, l'engagement associatif, je trouve que ça, il n'y a pas de... Comment dire ? C'est moins compliqué parce qu'il y a moins de conséquences. Prendre sa carte dans un parti, par contre, je sais que pour beaucoup, c'est un vrai cap à passer. Et je pense qu'il faut aussi un petit peu... comment dire, effacer ce mythe-là, en fait. C'est une association avec d'autres objectifs qui sont la conquête du pouvoir, mais ça reste un endroit où on peut porter des choses.
Et du coup, toi, tu as l'air de vouloir porter beaucoup de choses et assez précises. Donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu t'es dans un premier temps engagé à Place Publique, qui a quand même un message politique qui est assez flou.
Parce qu'à l'époque, justement, je pense que c'était le côté parti tout nouveau avec... des positions pas encore établies sur plein de sujets. Et en fait, la promesse d'un parti qui allait être hyper horizontal et hyper démocratique en interne. Et du coup, je me suis fait chouette, en fait. Du coup, vu que c'est encore tout en construction, etc., ben, je peux grave, en tant que moi, citoyenne, en tant qu'ultramarine, avec le point de vue, mon expérience, etc., bon, mon expérience de petite meuf de 18 ans, donc pas non plus une grande expérience de vie, mais vraiment l'impression qu'il y avait en fait un espace dans lequel on allait pouvoir construire et parler de sujets qui n'étaient pas abordés par ailleurs. D'accord, et c'est pour ça que j'ai choisi...
Plus facilement trouver ta place et peut-être aussi mettre fin à l'invisibilisation, ce danger dont on parlait juste avant.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Mettre fin à l'invisibilisation, parler des sujets qui sont invisibles et qui n'intéressent pas en réalité, pour la plupart, les politiques parisiens, le parcours classique qu'on connaît chez nos grandes élites politiques, quoi.
Très bien. On va continuer à parler de ton engagement chez Place Publique. On va juste demander à Jason en technique de nous mettre un petit jingle. Et ensuite, on va laisser la parole à Thibaut qui va nous lire sa chronique. Vas-y Thibaut, je t'en prie.
Ah, Anita David, encore bienvenue sur Politiquement Vôtre. Que de chemin parcouru entre la Place Publique de Glucksmann et la génération de Hamon. Et quelle génération ? Oui, d'ailleurs, quelle génération ? Ici, c'est la Y qui parle à la Z, parce que j'ai eu 30 ans le 5 février dernier, donc c'est les 90s qui parlent aux millennials. Rassure-toi, je ne vais pas passer ma chronique à faire ce qu'on appelle une Jean Massier ou une Salomé Saqué, à savoir parler de politique comme juste un problème générationnel. Non, moi, en ce moment, ce qui m'anime, c'est plutôt la politique, ses idéologies, ses actions, ses doctrines. Sur la génération Hollande, dans la série des Revenants, pas celle sur Canal+, hein, celle à l'Assemblée nationale, vous avez Manuel Valls qui estime qu'il y a deux gauches irréconciliables. Et j'en ai beaucoup entendu parler de ces deux gauches. Tantôt, l'une est la gauche de gouvernement, responsable dans le compromis, mais aussi d'accompagnement, SOSDEM, donc social-démocrate, ou parfois même social-traître. Et tantôt, une autre gauche, une gauche de rupture, révolutionnaire, radicale, mais aussi qui crie très fort, idéaliste, utopiste, voire dangereuse. J'ai beaucoup connu la première au gouvernement avec son lot de trahisons, de déceptions, et l'autre gauche en soutien de la première. La gauche de rupture n'était pas encore hégémonique. Puis viennent les crises, viennent les 6% de Hamon en 2017, puis les 1,7% d'Hidalgo en 2022, mais aussi les 19% et les 22% de Mélenchon en respectivement 2019 et 2022. La gauche de rupture devient hégémonique et sauve par deux fois ses camarades moins radicaux, donc le PS, ELV, le PCF et Génération, avec d'abord la NUPES puis le NFP. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de désunions, d'engueulades. Alors les engueulades, c'est vieux comme histoire de la gauche, mais bon, quand même, il faut les citer. Et de coups médiatiques qui sont passés par là. Aujourd'hui, je détecte toujours de gauche, donc plutôt PS et LFI, mais avec aussi au milieu une troisième gauche qui se dessine, un peu unioniste, qui regroupe d'ailleurs ELV, le PCF, l'APRES, donc le parti des 5 déçus de LFI, et Génération. Et vu que j'ai parlé d'actes dans ma vision de la politique, je vois plusieurs moments majeurs. Il y a tout d'abord une gauche qui appelle au calme et à l'ordre républicain, quand une autre appelle à la justice et soutient les luttes antiracistes suite à la mort de Naël. J'ai vu une gauche qui condamne le Hamas et soutient Israël beaucoup, longtemps, quand l'autre appelle dès le début à un cessez-le-feu, à la prévention d'un génocide et à l'arrêt d'une politique coloniale, raciste, basée sur le suprémacisme religieux juif en Israël-Palestine. J'ai vu une gauche qui censure et qui s'oppose de tout son poids à l'Assemblée avec toutes les armes législatives à sa disposition, et l'autre qui mesure, tempère, négocie, mais ne censure pas forcément un gouvernement raciste et antisocial. et une gauche sans l'appeler, qui sans l'appeler soutient et comprend les révoltes, tout en appelant à leur résolution par un changement de politique net, rapide, concret et radical, quand l'autre gauche s'offusque d'abord des violences révolutionnaires commises avant de timidement recontextualiser. Dans un pays qui a comme fête nationale une révolte sanglante et régicide, des plaques commémoratives qui célèbrent des terroristes qui ont tué des forces de l'ordre, fussent-elles allemandes, entre 1939 et 1945, et qui encensent encore une grève générale connue pour ses pavés lancés sur les flics, ma question est la suivante, de quelle gauche, te revendiques-tu ? Dans un pays où le fascisme arrive par les libéraux d'extrême-centre, comme dans l'Europe fasciste d'avant-guerre, quelle gauche peut advenir au pouvoir, qu'elle soit unie ou non ? Et enfin, j'ai une dernière question, et celle-là, elle est très importante. Est-ce que tu es plutôt Feel the Love Generation de Bob Sinclair ou My Generation de Limp Bizkit?
Vaste question. Pour ce qui est de la gauche dont je me revendique, je dirais que c'est celle que tu décrivais, radicale, antiraciste et qui demande un changement de politique clair. Enfin, vraiment, qu'on arrête tout ce qui est compromis ou compromission avec la droite. Par contre, je pense qu'il y a un truc qui est, enfin, contre moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Génération. Je pense que il y a effectivement deux gauches. Par contre, je pense pas qu'elles soient irréconciliables. C'est ce qu'on a fait avec le nouveau Front populaire. Si on était si irréconciliable que ça, on n'aurait pas réussi à faire cet accord, surtout dans un délai aussi limité. En fait, on a montré que quand il y a une vraie menace fasciste, ce qui était le cas,
ce qui est toujours le cas
effectivement, mais enfin dans l'immédiat, elle pouvait prendre le pouvoir, alors que là, on est encore un peu tranquille jusqu'aux prochaines élections, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elles arriveront, au bon vouloir de Macron. Il y a vraiment eu cette union-là qui s'est faite, et je pense que de ce point de vue-là, du coup, c'est dangereux aussi de parler de gauche irréconciliable, parce que si on n'avait pas fait l'union de la gauche, qui sait ce qui serait arrivé? Et je pense que de ce point de vue-là, il faut continuer à militer pour l'union de la gauche, tout en continuant à affirmer qu'il faut un vrai changement de paradigme, de comment on fait de la politique, de quelle politique publique on veut faire implémenter, qu'est-ce qu'on veut faire pour les gens vraiment. Et il faut aussi, je pense, faire le deuil de tout ce qui a été la politique de Hollande, qui a été une politique, je pense qu'on peut vraiment, on ne peut pas la qualifier comme une politique de gauche. Moi, j'étais plus jeune, donc je l'ai peut-être moins vécu. C'est pas totalement ça qui m'a amené à la politique, contrairement à beaucoup de gens avec qui je milite, qui ont quelques années de plus que moi et qui sont engagés pendant le quinquennat d'Hollande. Et ensuite, j'ai oublié ta question suivante, pardon.
Alors, je pense pas que c'était sur Feel the Love Generation ou My Generation de Limp Bizkit. Non, c'était sur le rapport à la violence, en fait, en politique, parce qu'il y a une phrase assez connue, je sais plus de qui d'ailleurs, mais qui dit qu'il y a trois violences. Il y a la violence d'État qui opprime donc le peuple, il y a la violence révolutionnaire qui du coup s'oppose à la première violence, et la violence répressive de la police qui vient taire la violence révolutionnaire sans jamais remettre en question la violence d'État. Et là, on a vu quand même dans les différentes actualités ces violences-là s'exprimer, notamment, je le citais dans ma chronique sur la mort de Naël. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, comme je t'ai dit dans ma chronique, comme je vois les différentes nuances de gauche, je voyais qu'il y avait des gauches qui appelaient tout de suite à cesser toute violence, que je ne saurais le voir, c'est impossible, voilà. Mm-hmm. Et une autre gauche qui appelait d'abord à la justice, qui comprenait les violences sans forcément dire « allez brûler des bagnoles, et yes, c'est cool ». Et en fait, moi, c'est ce rapport-là à la violence en politique, ça traverse tous les militants et tous les courants, et je voulais savoir comment toi, au niveau de ton parcours, comment tu te percevais par rapport à ça, en fait.
Je perçois surtout qu'il y a une vraie violence qui vient de l'État, dans plein de formes différentes, que ce soit par l'intermédiaire de la police, puisque c'est l'État qui est souverain et donc qui a le monopole légitime de la violence, comme on l'appelle. Et il y a une vraie violence de l'État de par l'expression qu'il y a eu effectivement avec les violences policières qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes, pendant toutes les manifs de la réforme des retraites, on s'en est pris des vertes et des pas mûres aussi. Et d'un autre côté, effectivement, il y avait la violence des manifestants qu'il y a eu pendant les émeutes suite à la mort de Naël, qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie Kanaky aussi suite à la réforme du corps électoral. Je n'irai pas trop en profondeur là-dessus parce que c'est complexe.
On y reviendra un petit peu.
Ok. Bah, et en fait, il faut comprendre aussi que la violence qui a été exprimée par ces militants, il faut comprendre la colère, d'où elle vient. Et en fait, cette colère-là qui s'est manifestée dans la violence, et, enfin, il faut la comprendre, mais sans appeler à la violence, c'est plutôt de ça que je me revendiquerai et comme ça que je me positionnerai. Il faut la comprendre parce que, en fait, il faut pouvoir réparer ce qui a été fait. Il faut pouvoir accepter aussi le passé de la France qui a été coloniale, donc en Nouvelle-Calédonie, avec la répression des Kanaks qui ont été mis dans des réserves, qui parfois ont été exposés lors d'une exposition universelle comme des cannibales, alors qu'ils n'étaient pas... Enfin, c'est pas du tout ça. Ils sont pas cannibales, du tout, de jamais. Ça n'a jamais été prouvé. Et d'un autre côté, bah, ce qui en a découlé, en fait, il y a un racisme d'État aussi qui s'exprime en partie par la police, mais aussi dans comment on gère nos politiques publiques, etc. Il y a un grand sujet sur ça, sur est-ce que, en France, la race n'existe pas, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. C'est un vrai débat de société qu'il faut avoir, puisque le racisme existe et c'est un fait. Mais voilà, tout ça pour revenir sur le fait qu'il y a des violences qui s'expriment de la part du peuple, de la part des gens. Il faut savoir la comprendre pour pouvoir réparer et accompagner les gens. Demander pardon aussi, sur tout ce qui est colonisation, etc. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce que l'État reconnaisse sa faute dans la colonisation et dans les politiques qui s'en sont suivies, parce qu'une fois que les colonies ont été abolies et que c'est devenu des territoires d'outre-mer, des territoires de la République, et que, soi-disant, on a aboli la gestion coloniale, en fait, ça a continué. En Martinique, avec le chlordécone, même la manière dont l'abolition de l'esclavage a été gérée. Enfin, voilà, il y a une vraie nécessité de demander pardon de la part de l'État et de réparer ce qui a été fait pour apaiser la colère et pour pouvoir faire société à nouveau.
Et sur juste une petite relance sur ma première question, sur donc les trois gauches que j'ai esquissées. En fait, je suis d'accord avec toi, la phrase de il y a deux gauches irréconciliables, je suis effectivement pas forcément d'accord, mais c'est plus sur le côté irréconciliable où je suis pas d'accord. C'est pour moi ce qui fonde l'hégémonie d'une gauche par rapport à une autre, c'est la force ou les trahisons suivant certains accords, etc. Et c'est vrai que historiquement, ça a toujours été plutôt à la faveur du PS quand il y a eu Mitterrand, qui a eu le petit cours d'histoire, quand il y a eu du coup le pacte qui a été scellé avec les communistes, ensuite il y a eu le tournant de la rigueur, donc trahison. C'est revenu ensuite sur Hollande, où il surfait un petit peu sur cette vague mitterrandienne, trahison. Et là effectivement, comme je le disais, on voit du coup une gauche de rupture qui d'ailleurs, Mélenchon vient lui-même du PS, c'est ça qui est...
Comme Benoît Hamon d'ailleurs.
Comme Benoît Hamon. Donc on rejoue des congrès du PS pour autant. Cette gauche-là devient hégémonique et par deux fois, donc avec la NUPES et le NFP, ils arrivent à conclure un accord, certes sur leur programme, qui est ensuite renégocié en interne, mais il y a cet accord qui se fait et c'est vrai que ce soit entre la NUPES, mais aussi après avec le NFP, j'ai vu encore et encore des élus ELV, PCF, PS, toujours taclés sur la France insoumise, secte mélenchoniste qui est dangereuse et il faudrait revoir l'accord, tout le temps, jusqu'à déclarer la mort de la NUPES et du NFP tous les quatre matins. Et en fait, là, pour l'instant, l'hégémonie, moi, je la vois plutôt du côté de LFI. Comment, du coup, tu vois l'avenir de la gauche, là, en ce moment, avec la configuration telle que c'est? C'est une question un peu vaste, je sais.
Ouais. L'avenir de la gauche, en fait, il est flou et il dépendra en grande partie de ce que les dirigeants politiques, de ce que les responsables de partis vont vouloir en faire. Parce qu'aujourd'hui, la politique, ça marche avec des partis. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait continuer, abandonner. Ça, pour le coup, j'en sais rien. Je sais qu'il faut s'organiser, en tout cas, pour lutter. Et qu'en ce moment, avec la montée de l'extrême droite, la crise climatique, etc., on a besoin de s'organiser pour mener ces combats-là. Mais sur ce qui est de l'avenir de la gauche, ça dépend vraiment pas tant de... Enfin voilà, comme je disais, de vraiment les dirigeants de partis, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, la France insoumise, elle a une grande place à gauche et qu'on peut pas vouloir faire sans. Je suis d'accord sur le fait qu'ils ont une façon de faire de la politique qui est souvent violente. C'est ce qu'on leur a beaucoup reproché pendant les européennes notamment, puisqu'ils ont passé quand même une grande partie de leur temps à taper sur le reste de la gauche, notamment les écologistes et PS Place Publique.
Qui leur auront bien rendu.
Excuse-moi,
je te coupe. Ouais, et c'est Europe Écologie Les Verts qui, dans un premier temps, a refusé une alliance avec eux pendant les européennes pour ensuite une fois la menace d'extrême droite aux portes du pouvoir, revenir sur cette alliance. Donc on peut comprendre aussi que, en fait, c'est des rapports de force qui peuvent être violents des deux côtés.
Oui, bien sûr, mais il y a aussi une manière de faire, je dirais, qui est très propre à la France insoumise, ou en tout cas à une partie de la France insoumise, puisque je pense qu'il ne faut pas non plus en faire un bloc totalement homogène. C'est même pas un parti, c'est un mouvement avec plein de gens qui sont effectivement de la gauche radicale, mais qui ont des méthodes plus ou moins violentes, une manière de faire, une manière de vouloir faire l'union qui est différente. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut... En fait, il va falloir composer avec un peu de tout. Pour faire l'union, enfin pour faire l'avenir de la gauche, parce que sinon l'avenir de la gauche, ça va être effectivement un éternel congrès du PS où on va avoir différents mouvements, branches de la gauche qui vont se taper dessus. Et je pense que c'est pas tout à fait ça qu'on peut qualifier de futur désirable pour la gauche, et que c'est pas du tout comme ça qu'on va réussir à mener les luttes sociales et écologiques dont on a tellement besoin aujourd'hui. Donc l'avenir de la gauche va dépendre de quelques personnes, et on espère qu'ils feront les bons choix pour qu'on puisse avancer ensemble, présenter un candidat unique de la gauche au présidentiel. C'est quelque chose que je souhaite et que plein de militants à gauche, je pense, souhaitent, parce qu'on sait que ça va être aussi déterminant sur qui sera au second tour et donc qui va gouverner notre pays à l'avenir. Mais en attendant, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est essayer de militer au sein de nos partis, de demander l'union quand on s'est rassemblés le soir de la dissolution, place de la République, pour en criant unité, unité. Bah, je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir continuer à faire, en particulier les mouvements de jeunesse des partis politiques, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé, je pense, la décision finale qui a été de faire le NFP avec l'ensemble des composantes de la gauche.
Bah, d'ailleurs, sur cette question, je crois que Djelloul, vas-y, tu voulais rebondir.
Comment peut-on mettre en place une politique de la gauche radicale avec les mêmes personnes qui ont mené des politiques libérales comme François Hollande, par exemple?
Je pense qu'il ne faut pas le faire avec les mêmes personnes. François Hollande, il a été président de la République, il a eu un long parcours politique avec des engagements locaux, puis nationaux, jusqu'à la présidence de la République. Et aujourd'hui, on a toute une nouvelle génération d'élus, alors de tout âge, hein. C'est pas forcément les plus jeunes de l'Assemblée ou les plus vieux du Sénat, mais il y a une vraie nouvelle génération de gens qui ont envie d'apporter des choses et qu'il faut aussi écouter. C'est-à-dire que François Hollande, il a été président, c'est genre le boss final. Il a fini son... Pour moi, il est revenu à l'Assemblée, c'est très bien, mais il faut pouvoir faire avec de nouvelles personnes pour espérer quelque chose de nouveau. Parce que oui, les gens changent, etc. Je ne pense pas que François Hollande ait fondamentalement changé d'idées politiques, etc.
Il nous le montre très bien qu'il n'a pas changé.
et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut en fait pouvoir faire confiance à une nouvelle génération. En prenant en compte beaucoup, je trouve ça fondamental, en prenant en compte la jeunesse, parce que c'est nous qui allons vivre dans le monde qu'on construit maintenant, les décisions, que ce soit sur la partie écologique, que ce soit sur la partie sociale, enfin peu importe les domaines, les politiques qui sont mises en place aujourd'hui, elles vont impacter la façon dont nous on va vivre plus tard. Donc c'est fondamental déjà de prendre en compte la vie des jeunes, qui s'engagent, qui s'engagent pas. Il faut aller chercher à toucher tous les types de jeunesse d'ailleurs, enfin pas que les petits parisiens qui ont vécu toute leur vie en centre-ville. Il faut aussi aller chercher les gens qui sont au fin fond de la campagne, il faut aussi aller chercher les jeunes des banlieues, il faut aller chercher les jeunes ultramarins. Donc ça, c'est un truc hyper important. Et d'un autre côté, il faut aussi pouvoir fermer des livres et en ouvrir d'autres.
Très bien, je te remercie. Vas-y, Timéo.
Vous êtes rentré dans Place Publique dans un but de réconcilier la gauche. Avez-vous toujours cette ambition ?
Toujours l'ambition de vouloir réconcilier la gauche et de militer pour l'union de la gauche, oui. Je pense qu'avec le recul, Place Publique n'était pas le meilleur endroit pour le faire. Moi, je m'étais engagée à Place Publique parce que dans le message initial, c'était plus de démocratie et l'union de la gauche. C'est pour ça, au début, que Place Publique s'était créée avant les élections européennes de 2019, avec la volonté de mettre tout le monde autour de la table. Et après, au final, les écolos l'ont quitté, Génération l'a quitté, enfin, plein de personnes ont quitté la table pour plein de raisons qui leur appartiennent. Et au final, il ne restait plus que le PS et Place Publique et Nouvelle Donne et probablement d'autres composantes dont je ne me souviens plus, je suis vraiment navrée. Mais oui, c'est toujours au cœur de mon engagement, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi Génération, parce qu'ils portent vraiment le message de « il faut qu'on s'unisse maintenant ».
Vas-y, continue sur ton autre question, Timéo.
Vous avez passé 3 ans chez Place Publique. Quel bilan pouvez-vous faire de ces 3 années et qu'est-ce que votre expérience vous a apporté ?
J'en fais un bilan, franchement, au final, positif, parce que j'ai beaucoup appris aussi. Enfin, je me suis engagée dans un tout petit parti, ce qui a aussi, je pense, contribué au fait que j'ai monté globalement rapidement les échelons. Enfin, la plupart des autres responsables de mouvements de jeunesse sont souvent plus âgés que moi, je l'ai été. Enfin, j'ai pris le mouvement de jeunesse, j'avais 19 ans. Et en fait, il y a eu un... Enfin, positif, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré plein de gens avec des engagements hyper divers. Il y a plein de gens qui sont venus à Place Publique pendant un temps et qui sont repartis après parce que bah, leur combat correspondait plus non plus, comme ça a été le cas pour moi, à ce que portait le parti de manière plus générale. Le bilan que j'en tire, c'est que je suis hyper contente de m'être engagée. Je regrette pas d'avoir choisi Place Publique à l'origine parce que quand j'y suis rentrée, c'était quelque chose qui me correspondait. Que voilà, encore une fois, j'ai rencontré plein de gens avec des combats hyper divers. J'ai découvert des causes aussi parce que on a un peu cette image-là de dans l'associatif, c'est toujours très centré sur un sujet. La politique, en fait, si on veut vraiment aider les gens, faut tout prendre en même temps. Faut prendre, on peut pas être spécialiste de tout, mais faut être à l'écoute du fait qu'il y a plein de choses auxquelles il faut, prêter attention. Voilà, ouais. Faut tout prendre en compte. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je ne pense pas que j'aurais pu apprendre ailleurs qu'en ayant été dans le bain du truc, enfin de la politique. Et du coup, ouais, un bilan plutôt positif. Et même si du coup, je suis partie parce que ça ne me correspondait plus, je pense que le bilan que je tire de ça, c'est aussi qu'il faut pouvoir, quand on s'engage, que ce soit dans l'associatif, dans le politique, dans le syndicalisme, il faut pouvoir être toujours en accord avec ce qu'on voulait porter au début et se poser régulièrement la question de hey, pourquoi je me suis engagée à la base. On peut changer de combat. Je me suis engagée sur tout ce qui était cause écologique et puis après c'est les Outre-mer qui sont venus parce que personne n'en parlait si moi j'en parlais pas. Mais il faut se rappeler de pourquoi on s'est engagé. Sinon ça n'a plus de sens.
Et faut si maintenir on... ses idées.
Ouais, il faut maintenir des idées parce que si on s'engage et qu'on n'a plus les idées, qu'on n'a plus les convictions derrière et qu'on s'engage juste pour s'engager, pour avoir un poste, ça n'a plus aucun sens de faire de la politique, si ce n'est la politique politicienne. Et ça mène, quand on n'a pas de conviction forte, je pense, à faire des politiques qui ne soient pas déjà pour les gens et qui soient juste s'aliéner soi-même et porter des trucs qui, en fait, ne correspondent pas du tout, quoi.
Très bien, merci. Thibaut, vas-y.
Ouais, du coup, pour, dans cette idée donc, où tu souhaites plutôt unir la gauche, moi j'avais une question pour toi. Est-ce qu'il faudrait refaire des primaires populaires? Parce que pour le coup, les primaires populaires, la critique principale des insoumis, c'est que c'était plutôt en général une prime à celui qui est plutôt centriste ou plutôt modéré dans ses opinions, ce qui, de fait, par rapport aux positions radicales d'LFI, les exclut. Peu importe le nombre de votants. Donc du coup, est-ce que c'est un processus qui, toi, pour le coup, t'intéresse? Est-ce que tu en vois d'autres?
Pardon. Sur la primaire populaire, je pense que le problème qu'il y a eu et le fait que, du coup, l'histoire de la prime centriste, etc., en fait, c'était dû au fait que, malheureusement, ça n'a pas touché, je pense, l'entièreté de l'électorat de gauche. Que du coup, ça a surtout touché parce qu'il y a eu des tractations, etc., qui sont faites pour que les gens connaissent le dispositif et aillent voter. Et en fait, le problème, c'est que je pense que ça n'a pas été allé chercher assez dans une grande diversité de territoires. Donc,
ça n'a pas été populaire, en fait.
Ça n'a pas été populaire, exactement. Ça a été plutôt sûrement bobo, grande ville, etc. Et je pense que ça, du coup, fait qu'on est arrivé vers quelqu'un de plus centriste. Parce que généralement, ce qu'on voit avec les primaires, quand on les prend parfois dans d'autres pays, etc., dans d'autres contextes, généralement, les primaires, c'est la prime au plus radical. La primaire pop, c'est pas ce qu'elle a donné, parce qu'elle n'est pas allée chercher tous les gens qui auraient pu donner leur avis. Le plus radical, c'est ce qui s'était passé, par exemple, pour la primaire écologiste pour les élections présidentielles de 2022. On avait eu Yannick Jadot, qui, je pense, était un des candidats les moins radicaux de cette primaire, et de l'autre côté Sandrine Rousseau qui était la plus radicale.
Ça s'est joué un peu quand même.
Oui, ça s'est joué un peu entre les deux, et ça montre que est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu, enfin, je pense que c'est un dispositif qui est intéressant après parce que ça permet aussi d'avoir l'avis des gens qui vont voter à la fin, donc pour qui ça leur plaît de voter, c'est important aussi, mais il faut aller chercher tous ceux qui sont susceptibles de voter pour leur donner aussi envie, parce que un des gros problèmes aussi à gauche, c'est qu'on a, je pense, une grande partie de l'électorat qui s'abstient. Donc, en fait, il faut aussi aller lui donner envie d'aller voter, de montrer qu'il peut faire confiance à ses dirigeants. Ça, c'est vraiment un combat de long terme qu'il va falloir mener, redonner confiance en l'électorat de gauche, en la politique, puisque c'est vrai que quand on a connu autant de trahisons, je comprends qu'on ait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins envie d'aller voter. Et après, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui existent? Ben, en fait, il faut juste pas que ça se décide entre quatre murs, entre les dirigeants des quatre plus grands partis. Comme, enfin, il faut que ça que la décision appartienne aux gens. Et après, soit c'est une personnalité qui va émerger d'elle-même toute seule.
Après, entre quatre murs, sur le programme, ça a plutôt bien marché sur le NFP et sur la NUPES, des dirigeants entre quatre murs qui se réunissent et qui décident de plein de choses.
Sûrement, parce qu'il a fallu le faire dans un délai hyper restreint. Enfin, on a eu 3 semaines hein, entre la dissolution et le premier tour, si je dis pas de bêtises. Donc sûrement que ça a bien marché, mais enfin, il y avait ce contexte-là d'urgence. Et là, dans la mesure où on voit arriver... Bon, alors, les prochaines législatives, qui sait quand elles arriveront. Mais sur
peut-être
les municipales... Ouais, peut-être juin,
on
peut-être
sait pas.
Pas.
On va pas en parler. Peut-être.
Voilà. mais sur les municipales et sur les présidentielles, et sur les régionales et les départementales, on sait quand est-ce qu'elles vont arriver. Donc, en fait, on peut les préparer et on peut faire des programmes où on écoute les propositions de la gauche. Enfin, de l'ensemble, même pas que de la gauche, mais de l'ensemble des gens, pour essayer de faire un programme qu'on construit avec eux. Et ça, je pense que c'est hyper important. C'est ce qu'on avait essayé de faire au niveau de Place Publique pour les européennes. On avait une plateforme, on avait recueilli les propositions, bah, sûrement pas de tout l'électorat de gauche, mais d'une partie au moins pour construire le programme. Et effectivement, ça a marché. Mais par contre, ce qui a moins marché, c'est que le NFP, ça a été, mais je pense pour beaucoup de militants qui militaient avant le NFP, une espèce de petite révolution dans le sens où on a vu... plein de gens s'engager en politique, mais on a aussi vu, enfin voilà, il y a des syndicats qui n'appelaient jamais à voter pour un bord politique en particulier qui l'ont fait, des associations qui l'ont fait également, et je pense que la particularité du NFP, c'est que ça avait amené à militer, à porter des idées, des gens qui ne l'avaient jamais fait forcément avant, et on avait réussi un truc qui était, le Front Populaire, c'était le truc des gens, mais de tout le monde, de tous ceux qui avaient envie de s'en revendiquer. Et le fait qu'après, ça soit renfermé dans des murs sur la décision de qui va être la future première ministre, parce qu'on a passé des semaines où, en fait, ils étaient quatre, des plus grands partis du NFP, le PS, les écologistes, les communistes, et j'oublie le quatrième, c'est mal.
PS, ELV, PCF, LFI.
LFI, pardon, oui, voilà. et donc ça a été... Enfin, je pense que ça a été aussi perçu comme une forme de trahison par les gens de un truc qui s'était vraiment approprié. Et je pense que c'est important qu'on revienne vers des combats que les gens s'approprient aussi.
Et pour revenir sur tes combats à toi, tu nous l'as dit, tu es engagé pour la justice climatique et la justice sociale. On sait que notamment Génération a longtemps milité pour le revenu universel. Qu'est-ce que tu as trouvé en termes de militants, en termes des idées chez Génération qui te manquait à Place Publique?
En fait, c'est quelque chose qui m'a manqué à Place Publique récemment parce que pendant longtemps, je m'y suis sentie à ma place avec des gens qui portaient les mêmes choses que moi, etc. Et ça a beaucoup changé après la dissolution. Même pendant les européennes, ça avait commencé un petit peu. Mais j'y ai trouvé, en fait, tout simplement une vraie conviction à gauche, une envie d'aller au bout, une radicalité aussi qui n'existait plus. Je pense à Place Publique quand j'en suis partie.
Oui, oui.
Et oui, voilà.
On te le confirme, ne t'inquiète pas.
Oui. Et une radicalité, une envie d'aller au bout. Et typiquement, on parlait des motions de censure rapidement tout à l'heure. Les députés de Génération ont voté toutes les motions de censure. Et en vrai, pour moi qui suis engagée, etc., un soulagement de savoir que j'étais dans une organisation qui était vraiment de gauche radicalement, qui allait au bout du truc, qui ne voulait pas... qui veut effectivement l'union de la gauche, mais qui n'ira pas se compromettre en ne votant pas des motions de censure, puisque le budget...
T'as pas senti compromission sur les idées, t'as senti que tes idées étaient respectées et que vous alliez au bout du processus.
Exactement, et puis même sur le budget, il y avait effectivement un besoin d'avoir un budget pour la France. Mais quel budget, en fait? Si c'est un budget qui tabasse les gens, ça ne sert à rien.
Et on va revenir sur le budget qui a été créé, qui a été adopté. Je vais laisser Jason me lancer un petit jingle et on va commencer la troisième partie de l'émission. Dans cette troisième partie, je voulais commencer par du coup parler un petit peu d'environnement, puisque tu nous parlais de justice climatique. Là, on est à un moment de l'histoire où du coup les climato-sceptiques arrivent un petit peu partout au pouvoir, notamment Trump pour le dernier en date, mais Milei en Argentine aussi. L'extrême droite augmente en Europe, donc ça va arriver également. Et on a encore eu l'échec de la COP29 en novembre dernier. Donc je te demande, comment on lutte encore aujourd'hui, comment on peut croire en la justice écologique et c'est quoi les alternatives à ce qu'on nous propose?
Alors, pas facile d'être militant écologiste en 2025, puisqu'effectivement, on voit qu'on est de plus en plus... enfin, face à un mur qui s'érige en même temps que celui de l'extrême droite. Hein. Généralement, ça, enfin, les deux vont beaucoup de pair, l'extrême droite et le climato-scepticisme. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas lâcher dans ces moments-là. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans une forme de résistance. Et il y en a qui vont appeler ça de l'éco-terrorisme. C'est ce qu'on a vu notamment avec les soulèvements de la Terre. C'est de la résistance.
Solide notamment, ouais.
Ouais, c'est ça, exactement. Bah, en fait, c'est de la résistance. C'est de la résistance face au fait qu'on est en fait, en pleine crise climatique, que ça va nous arriver droit dessus. Et sûrement, en hexagone, on le sent vachement moins que ce, qu'on sent, ce que moi, j'ai pu voir et vivre aussi dans les Outre-mer et ce qui se passe dans plein d'autres régions du monde. Anna Bikulu, elle en parlait la dernière fois.
Elle en parlait très bien, ouais.
Ouais, et en fait, faut rentrer en résistance. Il faut continuer à porter le fait qu'il faut une justice climatique. Il faut prendre des décisions radicales, des politiques publiques radicales pour la lutte écologiste, pour rendre nos sociétés plus durables, plus résilientes aussi, parce que de toute façon, on en est au stade où on va quand même s'en prendre plein dans la tronche. Donc, il faut à la fois savoir s'adapter, mais aussi faire en sorte de limiter les risques au maximum. Et pas que pour nous, en fait, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas sur le continent européen qu'on va en souffrir le plus du changement climatique. Et je pense que la justice climatique, c'est effectivement à l'échelle d'une ville, de pas mettre justement les grosses usines à côté des logements sociaux, les stations, enfin tout ça. C'est aussi au niveau de la planète, en fait, de faire en sorte que juste tout le monde n'en pâtisse pas. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui avec ce qui se passe, bon, notamment avec, aux États-Unis avec Trump. Et c'est ultra visible parce que c'est les États-Unis, mais il y a plein d'autres pays qui, aujourd'hui, n'ont rien à faire du climat, voire vont contre nous.
Contre l'intérêt de tous.
Voilà, c'est ça, exactement.
Complètement, ouais.
Et c'est là qu'il faut soutenir, d'une part, les militants écologistes et aussi les scientifiques qui nous alertent.
Et est-ce que toi, tu ressens un peu la criminalisation qu'il y a vis-à-vis des militants écologiques, notamment depuis Sainte-Soline en France ?
Ouais, plutôt, notamment parce que, y a des qualificatifs comme ça, islamo-gauchiste, éco-terroriste, etc., dont j'ai déjà été taxée, notamment parce que j'ai été à ça, c'est que c'est pas la fac de gauche,
effectivement.
La plus de gauche de France. Mais,
il reste des gens de gauche à ça, c'est possible.
Oui, il y en a.
On a l'exemple face à nous.
non, il y avait des super militants de gauche à ça aussi. Mais il y a vraiment cette obligation-là qu'on a de rentrer en lutte. Et effectivement, on va nous taxer d'éco-terroristes ou de tout plein d'autres qualificatifs, parce que de gros radicaux, de gens qui mangent que des graines,
etc.
Mais en fait, c'est parce que c'est hyper nécessaire aussi qu'il y ait des gens qui soient radicaux dans ce qu'ils portent, pour pouvoir importer du changement. Enfin, on n'a jamais fait de grandes choses, on n'a jamais fait de grandes réformes, de grandes révolutions, on n'a jamais changé l'ordre des choses en disant « Oui, change un tout petit peu, s'il te plaît, parce que là, c'est pas sympa. »
Effectivement, on n'a jamais fait comme ça. On va continuer sur les questions politiques. Vas-y, Djelloul.
L'actualité politique est brûlante en France. Êtes-vous favorable à la censure du gouvernement Bayrou ?
Oui, carrément, parce que je pense qu'aujourd'hui, alors, il y en a beaucoup qui disent que, notamment dans ceux qui ne veulent pas censurer à gauche, que le risque, c'est que si ce n'est pas Bayrou, ça pourrait être Taillot. Mais en fait, c'est quoi ? Enfin, aujourd'hui, vraiment, je demande, c'est quoi la différence quand Bayrou, il parle de submersion migratoire ? Mais en fait, c'est un discours d'extrême droite. C'est juste une manière bien reformulée de dire grand remplacement. Et du coup, en fait, l'extrême droite, que ce soit Retailleau ou Bayrou, qui soit la figure du truc, ça l'est. Et je pense qu'il faut... Il faut les censurer tant qu'en fait ils auront pas tant que Macron ne nommera pas un premier ministre issu du nouveau Front populaire, parce que ça a été on n'a pas gagné, mais on a été la coalition qui arrivait en tête pendant les élections législatives, et il faut le censurer jusqu'à ce qu'il y ait une proposition de quelque chose qui soit acceptable pour la gauche qui veut défendre les gens.
Merci. En parlant de cette gauche qui veut défendre les gens, donc il y a une loi qui a été votée par les sénateurs aujourd'hui qui interdit les personnes en situation irrégulière de se marier avec une personne française. Et ça va un petit peu dans la criminalisation aussi des personnes immigrées, et qu'on va avoir de plus en plus, justement, suite aux crises climatiques qui vont forcément nous amener des exilés liés au climat. Toi, c'est quoi ce regard, cette criminalisation aussi de l'étranger qu'on vit en ce moment ?
C'est une criminalisation qui est dangereuse, qui est raciste, et qui, en fait, va juste amener à briser des sociétés. Et c'est ce qui se passe dans, en vrai dans plein d'autres sociétés. Je pense à Mayotte, parce que le débat sur le fait de se marier avec des personnes en situation irrégulière avait aussi été abordé quand il y a eu du coup une proposition de loi qui visait à réduire le droit du sol à Mayotte.
C'était la défense de Bayrou d'ailleurs. Oui, non, je ne suis pas raciste, je ne parlais que de Mayotte.
Oui, bah
lui,
voilà.
Je ne sais pas si tu as vu, mais il a fait pire en défense en parlant de, son, de ses camarades noirs au lycée. C'était ridicule.
Ah, je l'ai vu, c'était...
Oui, c'est ça, je suis pas raciste, c'est un ami noir.
C'était un peu lunaire. J'admirais le beau gosse du lycée. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, on ne va pas prendre ça au sérieux, on va continuer sur ce qu'on dit.
Non, mais c'est, voilà, c'est une criminalisation qui est dangereuse, puisqu'elle va... Enfin, aujourd'hui, la société française, elle est pluriculturelle, elle est de plein de couleurs, parce qu'il y a le passé colonial de la France, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui vont venir, effectivement, à cause de la crise climatique, à cause des conflits qu'il y a aujourd'hui. Mais, enfin, je veux dire, comme par hasard, on a un problème, du coup, quand les personnes, elles sont racisées. Mais quand c'était les Ukrainiens, il n'y avait pas de problème, on a pu accueillir tout le monde. Et genre, je pense que criminaliser ça, et en ayant forcément juste en tête le fait qu'il ne faudrait pas que la société française elle soit plus bronzée que ça, en fait, c'est vraiment... Enfin, c'est dangereux. Et y a plein de gens qui vont en pâtir juste à cause de leur couleur de peau, à cause de où ils sont nés. Et ça va renforcer des préjugés sur des personnes qui sont françaises depuis parfois des générations, mais parce qu'elles sont racisées, peut-être que c'est un criminel étranger qui va venir voler mes tomates. Enfin, j'en sais rien, mais c'est hyper dangereux parce que ça va renforcer des préjugés qui existent déjà au niveau de la société française, qu'on devrait combattre, mais on les renforce.
Ça donne des ailes à l'extrême droite, puisqu'on voit encore qu'il y a quelques jours, il y a des militants kurdes et la CGT qui ont été attaqués pendant une projection d'un film par des néo-nazis. Est-ce que toi, ça t'inquiète, cette extrême droite qui est à la fois forte à l'Assemblée via Retailleau, via le groupe du RN, et dans les rues, avec des gens qui s'arment, qui manifestent de plus en plus?
Je trouve ça hyper inquiétant, d'autant plus parce que c'est un phénomène croissant. Le GUD qui avait disparu, le GUD du coup c'est un groupuscule d'extrême droite qui était associé au Rassemblement National et qui menait des actions violentes, qui avait disparu parce qu'il était menacé d'être dissous, comme l'a été Génération Z d'ailleurs, qui était un autre groupuscule d'extrême droite. Et ben en fait ça a disparu il y a, je sais plus quand exactement, et ça a été reformé il y a je crois 2-3 ans pendant un congrès du RN justement. Et en fait ils se sentent de plus en plus légitimes puisque effectivement leurs idées sont à l'Assemblée, qu'elles sont à la télé, qu'elles sont hyper relayées par certains médias détenus par des personnes qui les centralisent tous, Bolloré notamment pour n'en citer qu'un. Et parce que leurs idées, elles sont présentes dans la société, elles deviennent acceptables pour eux. Toujours pas pour nous, pour la gauche, parce qu'elles sont profondément racistes, entre autres xénophobes, pleines de haine, etc. Et en fait, ouais, c'est hyper inquiétant. Et il faut aujourd'hui aussi, réussir à remettre un petit peu la place au milieu du village, et juste de rappeler aux gens que ce qui est dangereux, c'est pas les gens qui disent « attention, il y a la crise écologique et il faut s'activer maintenant ». C'est les gens qui vont en poignarder d'autres. Enfin, j'espère d'ailleurs que le camarade de la CGT s'est remis. Mais c'est le vrai danger, il est là, parce que ces gens-là portent fondamentalement un message violent et de haine. Nous, il faut qu'on réponde à ça par la solidarité, parce que je pense que c'est une grande valeur de la gauche que la solidarité.
Totalement. Thibaut, vas-y.
Du coup, ça me rappelle ce que tu es en train de dire, le concept que j'avais évoqué la dernière fois que j'étais venu ici. J'imagine que tu connais la fenêtre d'Overton.
Oui.
Et en fait, pour réexpliquer ce que c'est que la fenêtre d'Overton, c'est une idée qui, du coup, est soit dedans, soit dehors. Et la fenêtre, ça définit le champ de l'acceptable en politique. Mmh. À savoir, par exemple, là, tout de suite, sur ce plateau, j'espère que je me ferai contredire, mais je ne peux pas dire comme ça tranquillement, il faut tuer tous les clandestins.
Non, ne dis plus jamais, s'il te plaît.
Voilà, c'est en dehors de la fenêtre d'Overton, pour des très, très bonnes raisons. Mais en fait, si... Donc, le principe de l'extrême droite, c'est qu'elle arrive, en justement élargissant cette fenêtre, à cette idée-là, la rendre d'abord complètement impensable, puis ensuite... un peu radical, puis ensuite qui se débat, etc., puis ensuite acceptable jusqu'à ce qu'elle arrive dans la loi. Et là, le problème, c'est qu'avec la fascisation actuelle de la société, la fenêtre d'Overton est passée énormément à l'extrême droite. Et nous, à gauche, est-ce qu'on a moyen d'agir sur cette fenêtre d'Overton?
Oui, Je pense qu'on a moyen d'agir et ça passe par deux choses. Effectivement, c'est le combat antifasciste, c'est de combattre ces idées-là, ces discours-là, notamment ce que tu disais, c'est exactement ce qui s'est passé avec le concept de grand remplacement. C'est que il y a plusieurs années, c'était un truc, c'est les fachos et point barre qui le pensaient. Et puis maintenant, quand tu parles de grand remplacement, il y a des gens qui font ouais, de ouf, je me sens plus chez moi en France. Alors que, globalement, si t'es toujours chez toi, il y a quoi qu'à changer à part la couleur de peau des gens, finalement.
Et que tu as moins de droits, que tu es plus pauvre et qu'il y a peut-être d'autres problèmes que ce que tu es en train d'évoquer.
Non, mais c'est. Et les gens se concentrent sur des problèmes qui n'en sont pas. Et ça mène en fait à. Enfin, c'est vraiment dangereux pour la société. Et par contre, on peut le combattre, donc, comme je disais, en apportant. En combattant le fascisme, que ce soit dans le discours, dans la rue, etc., c'est hyper important. Mais aussi en portant en fait d'autres thématiques, parce que eux ils ont réussi à s'imposer comme pas central, mais genre, enfin, vraiment aujourd'hui l'extrême droite est plus du enfin est invitée sur les plateaux, c'est pas du tout comme il y a je sais pas 20 ans où ils venaient de manière de temps en temps, etc. Il faut aussi que la gauche parle d'antifascisme et parle aussi des autres combats qu'elle souhaite apporter, qu'on soit pas uniquement dans la réaction à ce que les fascistes disent, qu'on continue à porter les combats de justice sociale, le revenu universel, tout ce qui était politique pour les personnes en situation de handicap, politique pour les jeunes.
Ça passe par des mesures très radicales.
Ça passe aussi par des mesures très radicales, puisque eux, vu qu'ils sont, alors sans qu'il faille non plus polariser complètement le truc entre des gens très à gauche et des gens très à droite, il faut quand même de la radicalité, apporter des solutions aux gens où ils se disent bah ouais, c'est de ça dont j'ai besoin, c'est pas du tout qu'il y ait moins de noirs et d'arabes, c'est j'ai besoin qu'il y ait des politiques, j'ai besoin de pouvoir manger à la fin du mois en fait. Il faut remettre ces idées-là, ces politiques-là, ces idées au centre du débat en parlant et en n'étant pas seulement juste en réaction au fascisme, au grand remplacement, etc., qu'il faut combattre, mais aussi apporter nos idées à nous.
Très bien, merci Anaïta. On va finir, il nous reste peu de temps pour finir l'émission, on va parler un petit peu de politique internationale. Timéo, je vais te laisser poser une question.
Concernant la politique à l'échelle internationale, quelle est votre position et celle de votre famille politique sur le génocide en cours à Gaza et la colonisation de la Palestine par Israël ?
C'est une vaste question, mais je pense que s'il y a un truc sur lequel il faut être très clair, c'est qu'effectivement ce qui s'est passé depuis maintenant un an et demi, voire ce qui se passe depuis des dizaines d'années en réalité en Palestine, c'est un génocide qui a effectivement une colonisation qui a été organisée par l'État israélien avec les colonies illégales en territoire palestinien sur la bande de Gaza. Voilà, exactement. Que tout ça, c'est inacceptable et c'est une reproduction de ce qui s'est passé par le passé avec la colonisation des grands États européens sur plein de territoires dans les Outre-mer, sur le continent africain, etc. Donc je pense que sur ça, la position, enfin, en tout cas ma position et celle de ma famille politique, c'est vraiment de dire qu'il se passe des choses inacceptables qui seront jugées par les cours internationales, etc. Mais que je pense que c'est important de parler de génocide aussi. Parce que si on ne met pas le mot dessus, il va y avoir une minimisation de ce qui s'est passé. C'est hyper important de parler de décolonisation, parce qu'il faut aussi pouvoir réparer ça. Donc il y a eu un génocide, maintenant il faut venir en aide aux populations. C'est une chose vraiment géniale que les otages soient libérés, mais maintenant il faut voir comment on va
reconstruire,
reconstruire et ramener la paix.
Ouais. Et très rapidement, on sait que Place Publique avait été très très tiède sur ce sujet. Est-ce que c'est une des raisons qui t'a fait partir aussi ?
Ouais, ça a été compliqué parce que Raphaël Glucksmann ne voulait pas parler de génocide pour des raisons qui lui appartiennent. Il pensait qu'il fallait que d'abord le terme soit employé par les juridictions internationales.
Ce qui est le cas aujourd'hui et il ne dit toujours pas le terme.
Honnêtement, ça fait partie. Je pense qu'il faut savoir être radical. Il faut savoir être clair et avoir toujours les mêmes positionnements, peu importe l'endroit du monde où ça se passe, être du côté des victimes et appeler un chat un chat.
Totalement. Et du coup, je voulais finir par une question sur les territoires d'outre-mer, puisqu'on sait qu'il y a eu des grosses crises, que ce soit en Kanaky, en Martinique, en Guadeloupe et plus récemment à Mayotte. C'est quoi ta position vis-à-vis de ces territoires ? On sait qu'il y en a beaucoup qui réclament l'indépendance ou au moins plus d'autonomie. Est-ce que toi, tu es favorable à ça ?
Bah, en fait, chaque territoire a ses revendications déjà, et je pense que le plus important, c'est de ne pas vouloir faire de généralisation, parce que pour avoir vécu dans deux territoires vraiment très différents les uns des autres, qui ont connu des vagues de colonisation différentes et dont les populations sont aussi extrêmement différentes, il faut écouter avant tout les populations locales, accompagner celles qui le souhaitent vers des processus de plus d'autonomie, mais tout en prenant l'entièreté de la population en considération. C'est le grand dilemme en Kaniki-Nouvelle-Calédonie. C'est qu'effectivement, les Kanaks veulent l'indépendance, mais de l'autre côté, ils ont aussi reconnu qu'il y avait des victimes de l'histoire qui, elles, le sont moins en faveur de l'indépendance. Et du coup, comment on concilie tout ça? Il y a des solutions qui existent et qui sont acceptées par, en tout cas, une grande partie des deux camps, loyalistes, indépendantistes, donc pro-France et ceux qui veulent l'indépendance. Et je pense que c'est hyper important d'aller vers ces solutions-là qui sont... pour le coup, acceptable par le plus grand nombre, pour qu'il y ait à la fois l'autodétermination des populations locales et en même temps voilà, que leur volonté soit respectée et qu'ils puissent aussi avoir des politiques adaptées à leur territoire, parce que c'est le problème dans les territoires les moins autonomes aujourd'hui d'outre-mer, c'est qu'en fait, on a des politiques qui ne sont pas du tout adaptées, et même, ça se voit dans des situations de crise. En Martinique, pendant le Covid, on était confinés en même temps que la France hexagonale, alors qu'on avait 2 semaines de retard. Donc on était déconfinés en plein milieu de la crise à chaque fois.
Ah oui, donc n'importe quoi. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger, notamment par rapport à la Kanaky, quand la France ne respecte pas ses engagements, finalement?
Si, carrément, carrément. Il y a d'autant plus un risque que ça risque d'amener des gouvernements étrangers aussi à faire de l'ingérence. C'est ce qui se passe avec l'Azerbaïdjan et les sommets organisés par Bakou.
La Réunion s'est rapprochée de l'Azerbaïdjan, notamment pour les questions d'indépendance.
Aussi, aussi, et je pense que c'est hyper important que la France soit plus à l'écoute de l'ensemble des courants qui peuvent exister au sein de ces territoires pour pas que ça ouvre la porte à des ingérences étrangères, qui plus est par des gouvernements qui ne veulent pas forcément du bien à ces territoires-là et qui eux-mêmes ne sont pas exempts de tout tort, quoi, surtout sur ces thématiques-là de colonisation.
Exactement. Bon, je te remercie. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Anaïta. J'espère que ça t'a plu.
Bah ouais, carrément. Merci beaucoup pour l'invitation encore
une
fois.
Avec grand plaisir, Thibaut. Notre chroniqueur qui faisait son grand retour, ça a été ce retour ?
Ça faisait plaisir. Bon, j'ai pas eu de réponse quand même sur Feel the Love Generation ou My Generation de Limp Bizkit.
On chante surtout Désenchanté de Mylène Farmer.
voilà, on en a très. Timéo, Djelloul.
Ça nous a plu. C'était
cool, vous avez appris des choses
comme
encore ?
Toujours, encore une fois. Bah, très instruisant.
Merci d'être venu. Merci à Jason en technique. Merci à toute l'équipe de Paris FM et d'avoir rendu cette émission politique de Politiquement Vôtre. Merci beaucoup. Et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Au revoir.